Dans une retraite, quelque chose change, c'est la confiance. Où est-ce que nous mettons notre confiance? Ou qu'est-ce que nous prenons comme refuge? Dans le monde ordinaire, notre refuge est très lié aux conditions. Notre pensée est formaté pour être efficace, être logique, avoir des stratégies qui visent un but. Mais dans une retraite, dans l'exercice de la méditation, les choses sont différentes. Et quand nous prenons refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha, nous prenons refuge dans ce qui vise au non-conditionné. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la sagesse comme refuge. Parce que l'exercice de la méditation, cette présence à l'instant, qui est le cœur du travail méditatif, c'est ça qui nous permet de vérifier, d'incarner des concepts qui sont des concepts qui ne sont que des concepts, mais des concepts extrêmement précieux parce qu'ils peuvent nous rendre libres. Alors j'aimerais un peu élaborer ces différentes manières de nommer quelque chose qui est extrêmement simple. C'est juste ce mouvement-là. J'abandonne. Il y a cet abandon de la saisie, le lâcher prise. Mais nous ne pouvons pas vouloir lâcher prise. Donc nous exerçons la présence, nous voyons quand nous lâchons, quand nous ne lâchons pas. Et la pensée sage aide à comprendre, en même temps je comprends intellectuellement comment orienter l'exercice de la méditation. Comment, lorsque nous abandonnons, il y a deux choses, lorsqu'il y a cet abandon, il y a un abandon de ce qu'on appelle les poisons de l'esprit, c'est-à-dire que dans l'instant, il n'y a pas de prison, pas d'enfermement du moi dans des opinions ou des énergies de peur ou de frustration ou de colère. Mais il y a autre chose quand il y a l'abandon, c'est cette espèce d'ouverture à notre cœur d'enfant. C'est simple, je vois, j'ose. L'enfant ose se laisser perdre. Il y a cette spontanéité, cette ouverture du cœur. C'est les deux choses qui sont là. Il y a cette forme de spontanéité simple et joyeuse. Et ce lâcher prise des poisons. Et souvent dans l'exercice de la méditation, nous voulons trop, nous voulons acquérir quelque chose, alors que nous créons un stress qui est inutile. Quand on a demandé au Bouddha, mais qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez acquis dans l'exercice de la méditation, il a dit, moi j'ai rien trouvé du tout, j'ai rien acquis. Mais je sais ce que j'ai lâché. J'ai lâché l'inquiétude, j'ai lâché l'aversion, l'agrippement, la confusion, tous ces poisons qui couvrent notre sagesse naturelle. Donc, ce ce mouvement d'abandon, il est porté par différents aspects, mais d'une manière générale, il est libre de la peur. Il est libre de la peur de manquer, de la peur de perdre, de la peur du regard de l'autre, de la peur de notre propre regard. Nous sommes terribles dans le regard que nous portons sur nous-mêmes, nos jugements. Il y a cette liberté de Tanha, la deuxième vérité noble. Je ne suis pas emprisonnée dans ce je veux ou je ne veux pas. Et c'est beau dans une retraite, parce que nous pouvons voir tellement bien, même dans des choses simples. Je suis en train de faire ma méditation, marcher, puis c'est bien, au début tout va bien, puis tout d'un coup, ça change, ça se colore, j'en ai un peu marre, j'ai plus envie, je veux faire autre chose, aller ailleurs. Et c'est là que l'exercice devient vraiment intéressant. Tout est au fond arrangé pour qu'on en arrive là. Voir cette soif d'existence, de vouloir autre chose ou de ne pas vouloir ce que j'ai. Nous sommes très attachés à faire bien ou à être bon. D'une certaine manière, c'est bon, c'est une belle intention de vouloir faire bien, de vouloir être bon. Je veux être un bon. Mais qu'est-ce que, si vous regardez bien l'expérience, quand je veux être bonne, ça crée une certaine tension. Alors que nous pouvons prendre pour refuge, plutôt que ce concept « je veux être bonne » ou « je veux faire bien », prendre pour refuge « mais comment c'est juste maintenant ?» Parce que nous ne pouvons pas faire faux dans l'exercice de la méditation. Nous ne pouvons pas être mauvais. Nous pouvons juste ne pas voir. Et quand je ne vois pas cette manière douloureuse de ne pas respecter l'instant mais de vouloir autre chose, que je ne peux pas nommer ça comme étant simplement dukkha, je crée ma propre souffrance. C'est moi qui crée ma souffrance, mais je ne le vois pas. C'est comme cette histoire de Nasruddin. Le moulin Nasruddin, il était paysan, puis il retournait sa terre, il allait travailler tous les matins. Et puis son voisin, il travaillait la terre d'à côté, et puis il bossait aussi bien. Et puis, à midi, ils se retrouvaient l'un à côté de l'autre, ils partageaient le repas, ils étaient ensemble pour manger. Et puis le voisin, il avait un beau pique-nique, une cuisse de poulet, des dattes. Et puis, la soirée, il avait toujours qu'un bout de pain sec, un oignon, puis un tout petit bout de fromage. Et puis, il se plaignait, mais c'est dingue, tous les jours la même chose, du pain sec, un oignon, un bout de fromage, tous les jours que Dieu fait, puis ça recommence le lendemain. Puis son voisin lui dit, mais tu devrais dire à ta femme qu'elle te fasse autre chose. Et puis le moulin lui répond, c'est moi qui prépare mon pique-nique. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Quand il y a la plainte, quand je commence à mettre la faute sur quoi que ce soit d'extérieur. Nous sommes sensibles et le cœur est vite touché par le monde conditionné. Et quelquefois, nous avons l'impression que l'aspect douloureux de l'expérience, c'est une erreur. Alors que Hier, il y a eu un moment où tout d'un coup j'ai senti que mon cœur était touché. Et vraiment, ce qui est venu, c'est mais où est-ce qu'il y a le plus d'aveuglement? Est-ce que c'est juste avant qu'il y ait ce contact qui crée quelque chose de désagréable, une peine? Ou est-ce que c'est maintenant? C'était très intéressant parce que lorsque l'expérience est bonne, il y a une identification inconsciente derrière qui fait que je veux garder, je veux ça, c'est bon, je veux. Et quand il y a souffrance, souvent ce mouvement est moins puissant. Il y a une plus grande bonne volonté pour voir l'identification. Dans le Majjhima Nikaya, il est dit « Là où il y a le délicieux et le plaisant, c'est à cet endroit que la soif émerge et prend racine. » Elle prend aussi racine quand il y a l'aversion et le déplaisant. Mais l'esprit est plus éveillé pour viser le lâcher-prise. Donc, c'est important d'aller bravement à la rencontre de ces moments d'inconfort où tout d'un coup, ça n'est plus parfait. Et de les voir pour ce qu'ils sont, le monde des perceptions. C'est juste le monde des perceptions. Les cinq khandas qui sont en train de se manifester à moi. Il y a un contact, un ressenti désagréable qui crée un souvenir conditionné, lié à mon histoire, ce même contact chez quelqu'un d'autre crée autre chose. Et si je le vois, tout est bien, parce que c'est justement ce refuge qui change. Au lieu que je prenne refuge dans les constructions mentales qui suivent cet impact de l'expérience sur l'esprit, je vois plus clair. Je prends refuge dans l'instant tel qu'il est. Qu'est-ce que ça me fait et comment je le ressens? Et c'est simple de dire « je te vois, Mara ». Je te vois, ah, je vois, juste maintenant, oh, c'est là, peu importe où c'est. Il y a cet intérêt. Mais ça n'est pas facile. L'identification, quand l'expérience est bonne et qu'il y a cette joie de l'exercice ou du relationnel ou de la nature ou les joies spirituelles, c'est très puissant. Et c'est aussi très puissant lorsque nous perdons ceci. La tendance à créer un fautif, comparer, vouloir autre chose, créer un moment douloureux, pris dans nos stratégies. C'est simple à voir intellectuellement, mais pas si facile à faire. Cette confusion entre un bon karma, qui est en fait tout autant une prison, qu'un mauvais karma. Alors, qu'est-ce que c'est la libération? Qu'est-ce que c'est que le refuge dans autre chose qu'une bonne expérience? Et j'aimerais vous l'explorer sous trois aspects. Le premier aspect, c'est en pali Nirodha qui veut dire la cessation. Quelque chose s'arrête. Et ce qui s'arrête, c'est ce jeu du j'aime, je n'aime pas, ce qu'on appelle les trois A, l'avidité, l'aversion et l'aveuglement, ça s'estompe, ça devient plus visible et j'en suis moins le jouet. C'est la fin de l'attachement, et particulièrement de ces 8 attachements mondains qui sont la réussite, l'envie de réussir, la peur de l'échec, l'envie d'être apprécié, aimé, la peur d'être rejeté et blâmé, l'envie de gagner, d'avoir plus, et la peur de perdre. Et puis tout ce jeu du plaisir et de la peine. Et quelque chose s'arrête. Et d'une certaine manière, c'est une grâce, nous ne pouvons pas vouloir que ça s'arrête. Mais nous pouvons mettre l'accent sur ce réflexe, cet instinct, de vouloir maintenir ce qui est bon, de vouloir rejeter ce qui ne l'est pas. Amener la lumière de la conscience. Quand est-ce que c'est tout simple, tout neutre, qu'il n'y a rien de spécial qui me... Rien de spécial. Et quand tout d'un coup ça se colore. Et c'est tout le chemin de la méditation, c'est mettre cette lumière de la conscience sur les moments où il y a tension, doute, jugement, opinion. Ce sens du moi. C'est à moi ou c'est à toi, ou c'est moi ou le mien. Et n'avoir aucun doute que c'est une bonne chose d'ouvrir à ces moments moins parfaits. Qu'est-ce que c'est que l'aveuglement? C'est Ajahn Chah qui dit... Quand on lui dit « mais j'arrive bien à avoir l'attachement et l'aversion, mais j'arrive pas à avoir l'aveuglement », Ajahn Chah répond « tu montes sur un cheval et tu demandes où est ta monture ». Par définition, l'aveuglement, c'est ces moments tout d'un coup de énergétiquement « tchik ». Donc la cessation, c'est cette cessation de ce réflexe tchouk et de ce le réflexe tchouk, on ne peut pas vraiment l'arrêter, c'est du karma passé, c'est un effet. Tout d'un coup, les conditions font que tchouk. Mais la cessation, c'est l'arrêt de sauter au niveau mental. J'arrête de croire que la tête va m'aider d'une manière quelconque. Et je reviens ici et maintenant, comment est l'expérience? Au niveau sensoriel, au niveau du corps. Donc la tête devient sage. Je sais au moins ce qu'il ne faut pas faire. Je sais que d'aller là-haut, ça ne sert à rien. J'ai compris quelque chose. Comprendre, c'est prendre avec. Je comprends. Et j'évite de faire ce saut qui nie le réel et la beauté de l'instant. Et la beauté de l'instant, ça ne veut pas dire qu'il est agréable. Il est beau parce qu'il est, et pas parce qu'il est comme ci ou comme ça. Une bonne manière d'explorer cette cessation, c'est la question. On peut questionner dans notre pratique souvent qui suis-je ou qu'est-ce qui est là, sans chercher à répondre, juste questionner. Et quand je questionne, qu'est-ce qui est là? Énergétiquement, ça fait quoi? Qu'est-ce qui est là? Et en tout cas, pas la tête qui vient dire je sais, ça doit être, il faudrait, il a fait. On regarde. Ça se tait. Hein? Qu'est-ce qu'il a? L'autre aspect qu'on appelle viraga en pali, la non-passion, c'est le cœur qui devient tranquille. Quand j'arrête de sauter dans le mental et que je donne de l'attention au cœur, c'est-à-dire à l'émotion ressentie dans le corps, pas à l'émotion travaillée au niveau mental, mais vraiment l'émotion ici et maintenant, expérimentée avec un accueil plein de bonté. Quand cette manière de se lier au monde conditionné se met en place, alors l'esprit devient stable. Il y a un contentement qui fait que je ne suis plus perturbée par le désir de l'extase et la peur de la dépression. Lorsqu'il y a passion, il y a ce sens du moi, je, qui crée une tension. Alors, d'une certaine manière, c'est chouette. Dans la vie quotidienne ordinaire, c'est beaucoup ce qu'on nous présente comme modèle fiable. C'est bien. C'est bien d'être amoureux, c'est pas bien d'être délaissé. C'est bien d'être génial, c'est pas bien d'être nul. Le problème, c'est que c'est impermanent et que lorsque le refuge qui était le mien dans cette condition-là, tout d'un coup, il y avait une bonne condition interrelationnelle ou une bonne condition professionnelle, ou tout d'un coup, ça disparaît. Ben, qu'est-ce qui reste? Waouh, dur, dur. Donc, c'est important de voir comment il y a un potentiel à l'intérieur de nous-mêmes pour aimer de manière non dépendante ou se laisser aimer de manière non dépendante. Ça veut dire que l'objet que la conscience peut contempler devient moins important. Je sais que les choses changent. Je sais qu'elles changent. Donc, un objet de conscience ne va pas devenir tellement important. Un état ne va pas devenir tellement important. L'autre, il est précieux. Qu'il soit précieux, oui. Il est précieux parce qu'il est, et parce que le monde conditionné est précieux, mais il n'est pas important. Et alors, le cœur se suffit à lui-même. La délivrance des passions implique que l'amour se détourne du monde conditionné. En fait, le cœur aime pour rien. Il aime le dharma. Et c'est la fin de la codépendance. Donc on pourrait dire que dans la cessation, c'est la tête qui, ou le mental qui se met à sa place. Dans cette ouverture à la non-passion, c'est le cœur qui se met à sa place. La passion est tellement ouverte qu'elle n'est plus. Ça devient universel plutôt que fermé sur seulement certains objets. Et le troisième aspect que j'aimerais aborder, il s'appelle Bida en pali, ou le désenchantement. Ça a à voir plus avec la manière avec laquelle je considère le monde. Un des facteurs de l'éveil, c'est l'intérêt. Et dans une retraite, l'intérêt est essentiel. Avoir de l'intérêt pour l'instant, pour ce qui se passe juste maintenant. Alors maintenant, on est dans quelque chose de plus conceptuel. Et il y a l'intérêt pour le contenu, mais il y a aussi l'intérêt pour tout ce que ce contenu éveille en moi. Comment est l'expérience quand il y a ça qui est qui touche. Nous sommes touchés non seulement par les contacts visuels ou auditifs ou gustatifs ou olfactifs, sensoriels, mais aussi par tous ces contacts liés à l'esprit. Et parfois nous sommes enchantés. C'est-à-dire que nous croyons vraiment fermement à la réalité de ce qui vient à nous. Et quand il y a l'intérêt pour l'expérience telle qu'elle est, le but n'est pas de devenir des spécialistes du moi ou des spécialistes de qui suis-je. Le but, c'est de lâcher prise de ce moi. Ok, j'ai vu. Il y a eu beaucoup d'intérêt. J'ai vu, c'est bon. Ce moi, je sais qu'il est limité, qu'il est vulnérable, qu'il a beaucoup de beauté, mais aussi passablement de manque. Et je ne lui demande plus d'être parfait. Et ce que je fais à l'intérieur, je le fais aussi à l'extérieur. Le monde, il est tel qu'il est. Je lâche l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose qui crée beaucoup de tension. Parce que, plus ou moins consciemment, j'aimerais que ce soit comme j'aimerais, pour que je sois plus ou moins en sécurité, confortable, pas trop stressée, pas trop inquiète. Le désenchantement, c'est mettre le monde à sa place. Dukkha. Le monde, le Bouddha l'a dit, il est dukkha. Première vérité, c'est une vérité. Je peux lâcher mon envie d'avoir un monde parfait. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'engager. Je vais m'engager de tout mon cœur, mais d'une manière avec un refuge dans l'espérance. Bien sûr, on a de l'espérance, mais ce n'est pas l'espoir. C'est une aspiration qui fait que Dukkha peut être accueilli avec un cœur ouvert, un mental clair et un corps détendu. Il y a une désillusion. C'est ce qui disait, la méditation, c'est une déshypnose. Nous ne sommes plus hypnotisés par la confusion entre le réel et la vérité. Le monde est réel. Il a ses 10 000 joies et ses 10 000 peines. Mais il n'est pas la vérité. Dans ce manque d'intérêt ou cette absence d'intérêt, le Bouddha parle à un moment donné, il a des mots forts, il parle de révulsion. La révulsion pour le monde. Et c'est un passage qui n'est pas inutile parce que l'attrait pour le monde est tellement puissant. Nous avons un attrait, la soif d'existence, Bhavatana, est puissante. Et dans une retraite, nous pouvons bien sentir l'envie d'être chez soi, l'envie, peu importe de quoi. Maya, le monde de l'illusion, c'est Maya. Et lorsque, à travers l'exercice de la méditation, nous voyons l'impermanence, que nous voyons l'insubstantialité de ce qui se passe dans l'instant, parce que ça change. Et puis je vois comment j'y crois. Il y a 10 minutes, j'y croyais, maintenant c'est autrement. Dans 10 minutes, j'y croirai de nouveau. Alors, cette insubstantialité est vérifiée à l'intérieur. Et qu'en plus, nous entendons intellectuellement que c'est pas juste moi qui suis dans une autre forme de... Mais que oui, ça peut vraiment apporter la libération énergétique dans l'instant. C'est ça que nous cherchons. Un instant qui soit waouh, lâché de tout ce que nous rajoutons comme... Ben voilà, comme tendance, parce que le moi, il est là, il a ses tendances, il a ses schémas, il a ses petitesses. Et c'est pas un problème, ça n'est pas quelque chose à supprimer, mais c'est vraiment quelque chose à voir quand ça émerge. Alors, ce désenchantement devient le réel. Il y a ce retournement, le refuge dans le monde conditionné lâche, et il y a un autre refuge, un refuge dans ce qui est au-delà. J'aime beaucoup, je trouve que Jésus le dit tellement bien quand il dit « Je vous ai mis dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Et ce qui se passe alors, c'est que la conscience devient prioritaire. La question, c'est plus tellement qu'est-ce que je vis, ou bien quelle est l'expérience, mais c'est est-ce que je suis là. Et si je suis là, peu importe avec quoi, tout est là. Il n'y a rien qui manque, même si c'est l'horreur absolue. Waouh, l'horreur absolue. Des fois, le « waouh », vraiment content, vient un petit peu après. Mais on peut reprendre ces moments où je me sens à l'étroit et puis chercher comment trouver ce chemin de l'équanimité. Le monde nous crée et nous créons le monde. Et bien sûr que c'est un aspect, c'est ce refuge dans la sagesse, où je sais comment ne pas me noyer dans le monde conditionné. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cet autre aspect où je m'engage totalement. Mais s'engager en se faisant noyer, ça ne sert à rien. Donc c'est une forme de contemplation du western du monde. Aujourd'hui, on a peur de Daesh. On crée les bons et les méchants. Mais tout ça est contenu dans un... un espace-temps qui est très limité. Avant, c'était terrible, c'est l'Inquisition qui était terrible. Ou la guerre de Cent Ans. Ou l'invasion des Huns. Aujourd'hui, c'est Daesh. Mais bientôt, ce ne sera plus ça, ce sera autre chose. Mais on peut lâcher l'espoir fou qu'une fois, il n'y aura plus rien. Parce qu'au fond, nous sommes nés parce qu'il y a des choses à purifier. S'il n'y a plus rien à purifier, il n'y a plus un être. C'est Calorie Pochet quand on lui demandait, mais au fond, qu'est-ce que c'est qui se réincarne? Il a répondu, pour moi ça fait tellement sens, il a répondu, your bad habits, vos mauvaises habitudes. Nous sommes là uniquement pour contempler, accueillir, aimer notre zone d'ombre pour lui permettre de lâcher. Et alors après, nous sommes libres de revenir ou non sur cette terre. Chez les Tibétains, il y a ce vœu du Bodhisattva. Le Bouddha libre décide de revenir sur la terre juste pour aider les autres qui sont encore dans l'aveuglement. C'est un choix. C'est Joseph Goldstein qui dit « L'acte d'un être éveillé ou d'un homme ordinaire est le même. L'un comme l'autre sont un avec l'acte. Mais l'homme ordinaire se perd dans l'acte en créant une personnalité identifiée et fixe. Et l'être éveillé se lie totalement à l'acte, mais il sait qu'il n'y a personne qui agit. » Et en fait, ce personne qui agit va complètement avec cette conscience que nous avons l'éveil en nous-mêmes. C'est pareil. Si je sais que j'ai l'éveil en moi, je sais aussi qu'il n'y a personne qui agit. Que je ne suis pas séparée du tout, que je ne peux pas être isolée, que je ne peux pas faire faux, que je ne peux pas, que je suis de toute éternité. Nous donnons beaucoup d'importance à ce monde à l'extérieur ou à l'autre ou à la situation, mais une retraite, c'est passer de ce qui est exotérique à ce qui est ésotérique. Nous venons vraiment dedans. J'ai reçu un petit film sur le Dalai Lama, vraiment super joli. Puis à un moment donné, il dit « Nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Nos cerveaux et nos cœurs sont notre temple. » Les difficultés, c'est le chemin. Et quand elles sont là, elles sont tout aussi bonnes que lorsque nous avons l'impression que le monde nous appartient. Je vous dis un passage, je crois bien que c'est dans ce livre Bouddha Rebelle, je ne suis pas sûre, mais je crois. La sagesse n'est pas un trésor caché à l'intérieur de nos émotions. L'ouverture et l'éveil complet sont déjà présents dans le premier éclair de colère, de passion, de jalousie. La distinction entre l'esprit et sa nature véritable, ou entre les émotions et leur nature véritable, ne se révèle pertinente qu'à travers les lunettes de la pensée. Vues de leur propre côté, de leur perspective propre. Aucune distinction de ce genre ne peut être faite. Par conséquent, vivre directement nos émotions brutes, non transformées, peut engendrer une expérience directe de l'éveil. Ces émotions sont de puissants facteurs de notre libération si nous savons travailler convenablement avec elles. Nous pouvons faire confiance à nos émotions. Non seulement elles sont utilisables, mais elles sont le chemin et aussi son aboutissement. Confiance dans l'instant, c'est ça, c'est une autre facette de la sagesse, cette confiance dans l'instant. Il n'est pas tel qu'il est par hasard. Il y a cette loi de cause à effet qui crée un interrelationnel rouge, rose, bleu, vert ou blanc ou noir. Et puis il y a ce refuge dans la sagesse qui fait que je vois ces opinions, je vois ce monde, cette danse de la vie. Je n'y crois pas. Je suis en même temps intimement, je participe intimement, mais en même temps, c'est pas mon seul, je mets pas tous mes œufs dans ce panier-là, c'est pas mon seul, c'est pas ma sécurité. Et alors, la vie devient simple parce que le corps prend juste sa place, pas plus ni moins. Le cœur, il est ouvert à la flèche. Il ne cherche pas qu'il n'y en ait point. Il est juste ouvert. Il y aura, il n'y aura pas. C'est autre chose. Et le mental, il ne va pas anticiper, il va servir plutôt à questionner et à aider le corps et le cœur à créer un lien à l'instant qui est un lien de respect, de paix, un peu d'humour. Des fois après coup. Je vais finir par un petit mot d'Ajahn Chah. Si l'esprit est en paix, vous êtes heureux partout et toujours. Quand la sagesse s'éveille en vous, où que se porte le regard, vous pouvez voir la vérité. La vérité, c'est tout ce qui est. C'est comme d'avoir une fois appris à lire. Après, vous pouvez lire tout ce qui est écrit. Je vous propose qu'on prenne un moment en silence.